bonjour.
Alors, support TI, gestion informatique, cybersécurité, ce sont tous des sujets hyper importants ces années-ci, Bruno, n'est-ce pas?
Certainement. Pour la continuité de vos affaires à l'heure du numérique, les défis et les menaces pèsent lourdement sur les entreprises de toute taille.
Ça, c'est clair.
Les coûts associés à une cyberattaque peuvent être astronomiques.
Oh oui, sérieusement.
Investir dans des mesures de protection adéquates permet de prévenir des cyberattaques, mais aussi de réduire ses coûts.
Merci, grand chef STO. On se reparle très bientôt.
STO, Centre d'ordinateur, rue Franck-Carrel à Québec. L'excellence intégrale.
Moi, l'été, j'arrête jamais. Faut tondre le gazon, nettoyer la piscine, prendre soin du jardin, des plates-bandes puis du chien qui s'est encore sali dans le jardin. La seule fois que j'arrête, c'est pour aller donner du sang. Puis ça, j'arrêterai jamais.
Prenez rendez-vous pour la collecte de sang à venir près de chez vous sur le site web d'Emma Québec.
Depuis 1985, la Maison Albatros offre gratuitement des services aux gens en fin de vie tout en offrant du support aux proches éprouvés. Afin de poursuivre sa mission, la Maison compte sur le soutien de la Fondation Albatros qui doit recueillir chaque année des milliers de dollars, notamment avec son spectacle bénéfice. Contribuez à la cause en assistant au spectacle Les Voix s'élèvent le 4 septembre à l'Amphithéâtre Cogeco avec Marc Hervieux, Marie-Denise Pelletier, Christian-Marc Gendron, Manon Séguin et les 24 musiciens de l'orchestre La Symphonia de Lanaudière. Billets disponibles à partir de 28 $ au Amphithéâtre Cogeco.
Choix. 98.1.
À Québec.
C'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my God.
Radio X.
C'est officiellement en direct qu'on entame une autre saison de l'hiver 2024 des Radio X-Files. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Merci aux auditeurs de votre patience entre congé des fêtes et projet vacances. Je suis de retour et le cerveau de l'affaire l'est aussi. Je suis là pour diriger et faire la mise en onde de notre cher Christian Page. Tu étais très en demande, mon cher Christian. Les gens sont très contents de te retrouver.
Ben, je suis content d'être là aussi. D'ailleurs, bonne année, Camille.
Ben, bonne année. On a le droit de se le dire. C'est la première fois qu'on se parle.
C'est la première fois qu'on se parle depuis le début de l'année. Et effectivement, donc, chacun des projets de notre côté qui nous a obligé un peu à retarder cette nouvelle saison. Mais bon, je suis content d'être là ce soir. Et j'espère que tu es reposé, que ton petit, toi, tu t'es permis un voyage dans le sud, alors que moi, je me suis permis du travail.
Oh, le travail m'attendait. Au retour, je te dis, ça a été une semaine où il a fait un petit peu plus chaud, un petit 40 degrés de différence. Ça se prend bien, puis là, ben, on est de retour.
Je me rappelle, tu me fais penser, je me rappelle à un moment donné quand on tournait à la recherche des reliques saintes, je revenais du désert où on est allé tourner en Israël, donc on est allé après ça dans le désert, en Égypte, tout ça. Et on avait des journées, là, au soleil, là, le mercure marquait 50 degrés.
Ah, wow!
Et quand on est arrivé au Québec, il faisait moins 10, tu sais.
Juste un petit écart de température.
Ah oui, le choc est brutal, effectivement.
Mais j'ai eu une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Moi, je devais y aller cet automne en Égypte et le voyage a été annulé. Mais tu sais, on comprend avec la situation géopolitique que c'est un peu prévisible. Ouais, ouais. Mais ce sera une prochaine fois, mon cher.
Parce que c'est ça, l'Égypte est collée sur l'Israël. Hein, ouais. C'est une frontière commune avec l'Israël. Puis d'ailleurs, l'aide humanitaire arrive par la frontière de l'Égypte vers l'Israël pour supporter là, les camps de réfugiés qui se trouvent à la frontière de la Palestine, tout ça.
Exactement.
Donc, effectivement, mais écoute, comme j'espère pour toi que c'est vraiment un projet qui est un projet de reculer pour mieux sauter, hein, parce que, oui. Effectivement, c'est un endroit qui est tout à fait fantastique, l'Égypte, pour y être allé là, et avoir visité ces grands hauts lieux de l'Antiquité, là, les pyramides, le Sphinx, les grandes cités, là, les Thèbes, Memphis et autres. Là, c'est vraiment des endroits qui sont extraordinaires.
À chaque fois que tu en discutes, oui, sur les ondes, tu tu me fascines puis tu me donnes le goût encore plus d'y aller. Donc, ce n'est que partie remise. Et on se parle de ça les deux pieds dans le slush aujourd'hui.
Oui, et j'espère que quand j'en parle, les gens sentent en fait l'engouement que j'ai pour cette région-là. Parce que c'est vrai que c'est magnifique. Même l'Israël, hein, on est dans une zone de conflit, une zone de guerre, mais en temps de paix, l'Israël, c'est vraiment magnifique. Là, moi, quand j'ai fait à la recherche des reliques saintes, heureusement, il y a toujours des frictions en Israël, mais c'était une période de calme relative. Et quand j'ai visité l'Israël et on a fait tout ce circuit-là en suivant les traces de Jésus et de la Bible, c'est un endroit qui est magnifique. Là. Et je tiens quand même à souligner pour les gens qui ne peuvent pas aller en Égypte, soit pour des raisons budgétaires ou pour des raisons de conflit, que débute le mois prochain, en février à Montréal, l'expérience Khéops en virtuel.
Ah oui?
Donc, les gens peuvent, avec une espèce de lunette de vision et virtuelle, ils peuvent littéralement se promener dans la grande pyramide comme s'ils y étaient. Donc, ils tournent la tête à gauche, à droite, ils voient le corridor, on monte la grande galerie vers la chambre du roi. Donc, pour ceux qui préfèrent voir l'Égypte en restant au Québec, ben cette expérience-là, je ne sais pas si elle sera disponible éventuellement à Québec, mais je sais qu'elle est disponible à partir du mois prochain à Montréal, ce qu'on appelle le centre de l'exposition des sciences dans le Vieux-Port de Montréal. Et donc, les gens peuvent faire cette expérience Khéops comme si vous y étiez en vision immersive. Là, c'est vraiment extraordinaire. Ça a connu un énorme succès. Ça a été présenté d'abord en France. Ça a connu un énorme succès. Et là, maintenant, à partir du mois prochain, ce sera disponible à Montréal, en espérant que les gens de Québec, ou bien vous ferez le voyage, ou bien en espérant que ce sera repris également dans une exposition scientifique à Québec. Mais c'est vraiment, ça vaut le détour, parce que si vous n'avez pas la chance de vous rendre en Égypte et de voir les pyramides, ben au moins, c'est pas comme si on y était, mais c'est quand même une espèce d'immersion, et ça permet de voir ce que tant de gens ont vu avec un émerveillement, et moi le premier, les pyramides, quand on y est, c'est quelque chose.
Un beau privilège de la technologie maintenant, effectivement. Oui. Ben, je mets ça à mon agenda, ce serait intéressant, effectivement, à aller voir. Ce soir, pour notre grand retour, Christian, on est dans la thématique des ovnis. Tu nous proposes un petit rattrapage des nouvelles qu'on a eues dans les dernières semaines?
Absolument, parce que j'ai pas suivi quel était l'ordre des émissions qui ont été présentées en reprise, mais généralement, quand on a quatre thématiques mensuelles, hein, les ovnis, ensuite on passe à la parapsychologie et énigmes plus généralistes, notre troisième thématique, c'est les grandes énigmes de l'histoire, et la quatrième, celle que tu favorises, ce sont les crimes et les histoires un peu sordides.
Coupables, oui.
Et d'ailleurs, je te le dis, là, ça s'en vient. Là. J'ai travaillé durant la période de Noël, là, j'ai travaillé sur mon livre Les enfants assassins qui sort ce printemps. Et j'ai également travaillé sur ce livre que tu attends, là, le fameux Atlas des crimes.
Oui.
Qui est magnifique. Écoute, j'ai encore cette semaine, là, j'ai passé au travers les pages remontées. Le visuel est magnifique. Là. J'étais sur les pages qui concernaient notamment la mafia montréalaise et la guerre des motards. Et les photos sont magnifiques. Le montage est magnifique. J'ai passé aussi y a une photo, vous allez être assez surpris de voir le matelas imbibé de sang dans l'appartement de Loco Magnota. Il y a quand même des images qui sont assez choquantes, je l'avoue. Là. Mais bon, j'ai travaillé là-dessus, ça s'en vient bien. D'ici la fin du mois, ça sera chez l'imprimeur, donc à prévoir, on a sorti là aussi ce printemps, le grand atlas du crime. Cela étant dit, j'en reviens effectivement, on a nos fameuses quatre thématiques, et comme j'ai pas suivi l'ordre des émissions qui ont été présentées en reprise durant la période des fêtes, j'ai dit, bon, on va reprendre au tout début, donc on va partir avec notre thématique des ovnis pour repartir cette nouvelle saison 2024.
Parfait.
Et tu l'as mentionné, les ovnis, c'est un sujet qui est toujours très d'actualité. On en parle pratiquement toutes les semaines. Et il y a eu beaucoup d'événements durant la période, le fin du mois de décembre et janvier. Un événement, à mon avis, qui mérite particulièrement notre attention, c'est la lettre de démission de Sean Kirkpatrick, qui vaut la peine d'être lue. J'en ai isolé quelques extraits, mais écoute, c'est extraordinaire. Non, je reviendrai là-dessus, on pourra la commenter ensemble. Et donc, comme il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits, j'ai dit, on va faire un rattrapage, puis on va essayer de se replacer là, dans l'actualité par rapport aux ovnis, si tu le veux bien.
Allons-y.
Donc, je commence, hein, puisqu'il faut parler de la suite des enquêtes menées sur les ovnis. Ben, sache qu'en décembre dernier, donc décembre 2023, le nouveau budget du département de la Défense a été accepté, comme ça se fait à peu près chaque année, là, sans grosse dissidence au sein de la Chambre des représentants. Et on a voté pour un budget de 842 milliards de dollars. Hein, j'ai bien dit 842 milliards. Ça fait des sous, ça, pour un budget annuel. Donc ça, c'est évidemment, c'est le budget total du département de la Défense, du ministère de la Défense. Ouais, c'est ça, département de la Défense. Et bien sûr, dans ce budget, on le sait maintenant, il y a depuis quelques années maintenant, et principalement depuis 2020, on a placé dans une espèce de petite, d'un petit onglet dans ce grand budget-là pour enquêter sur les ovnis, ce qui a donné naissance en 2020 à la création de ce bureau d'enquête sur les ovnis qui porte l'acronyme de ARO, qui en français veut dire Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. C'est un nom qui est pas très sensuel pour parler d'OVNI, mais enfin. Et ce bureau-là, donc, il est effectif depuis 2020. Et tout ça faisait suite à la publication d'un article paru en 2017 qui disait que le département de la Défense avait quand même alloué dans le passé des sommes d'argent, des petits budgets, faut bien le dire, là, très, très modestes pour enquêter sur les OVNI. Et comme tout ça a fait que ça a comme délié des langues, des pilotes sont sortis pour dire, ouais, des OVNI, on en a vu, puis là, on a vu apparaître des films qui ont circulé. Je pense que tous les auditeurs ont dû voir à un moment donné ou un autre ces fameux films. D'ailleurs, on utilise un extrait audio dans l'un de ces films dans la signature d'introduction de l'émission Radio X-Files.
Oui.
Donc, ces films-là ont circulé. Et là, évidemment, ça a entraîné une espèce d'intérêt au sein du Congrès. Qu'en est-il de ces histoires d'OVNI? Et donc, depuis 2020 maintenant, le département de la Défense, qu'il faut le dire, hein, on avait quand même... le département de la Défense avait déjà mis en place des commissions d'enquête sur les ovnis dans le passé. Hein. C'est pas la première fois qu'on s'intéressait à ça. Entre 1947 et 1969, les Américains ont mené une enquête de 22 ans sur cette question des ovnis, qui a changé à 3 reprises de nom durant cette période. Ça a commencé sous le nom de projet Sign, c'est devenu le projet Grudge, et pour se terminer entre 1952, la dernière période, la plus longue, 1952-1969, ça a été le projet Blue Book. Et faut-il le rappeler, janvier 1970, lorsque le Blue Book avait cessé ses activités en décembre 69, ses conclusions publiées en janvier 1970, et les conclusions étaient, on a enquêté sur 12 618 signalements d'OVNI, de ce nombre-là, 701 sont demeurés non identifiés. Faut-il le rappeler qu'en faisant cette affirmation, les militaires viennent de planter un clou dans le cercueil des amateurs d'OVNI qui ne cessent de répéter « Le gouvernement américain nous cache l'existence des ovnis », ce qu'ils n'ont jamais fait. Mm. Jamais fait. Hein, déjà dans le projet Blue Book, ils ont dit « On en a 701 cas pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication ». Ce qui fait plus mal aux amateurs d'ovnis, c'est pas le fait que le gouvernement cache l'existence des ovnis. C'est la troisième conclusion, et cette troisième conclusion était des 12 618 observations d'ovnis, 701 demeurent non identifiées, et de ces 701 qui demeurent non identifiées, même si elles demeurent non identifiées, rien ne permet de croire que nous sommes visités par des extraterrestres. Pourquoi? Parce que c'est 701 cas non identifiés, ou bien ces cas-là ne menaçaient pas la sécurité nationale, ou bien ces cas-là, même si on ne pouvait pas les identifier, ne témoignaient pas d'une quelconque technologie particulière. Tu sais, quelqu'un dit, j'ai vu une lumière traverser le ciel, puis ça se déplaçait. OK, on n'a pas trouvé c'était quoi la lumière, mais elle n'a pas fait de zigzag, elle n'est pas montée en flèche, tu sais, tu comprends? Donc, on ne sait pas trop, mais il y a rien qui permet de croire qu'on est en présence d'une technologie exotique. Et enfin, en disant, ces cas-là sont non identifiés, c'est ou bien ça n'a pas fait preuve d'une technologie particulière, mais surtout, c'est que ces 701 cas qui demeuraient non identifiés étaient les cas les moins bien documentés. Et on comprend que quand un cas est mal documenté, c'est difficile de déterminer ce que c'est. Hein, par exemple, si tu me dis, Christian, je suis allé dans le sud et c'était au mois de décembre et j'ai vu un ovni. Et je te dis, OK, Camille, c'était quand? C'était dans la semaine. Oui, c'était-tu lundi ou mardi? À mon avis, c'était peut-être mardi, mais ça pourrait être mercredi ou peut-être même jeudi. Puis c'était quand? Oh, c'était en soirée. Oui, mais c'était-tu vers 8 heures, 9 heures? C'était quoi l'heure? Quelque part entre 8 heures et 10 heures. Donc, à partir de là, on le comprend, même si tu es de bonne foi, moi, comme enquêteur, il n'y a pas grand-chose que je peux faire avec ça. Tu sais, une observation d'une lumière dans le ciel entre lundi ou jeudi, entre 8h et 10h, ben, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, j'ai pas le moyen de vérifier les registres, par exemple, de l'aviation civile, déterminer, y a-t-il des lancements de ballons, y a-t-il des avions. Tu sais, y a rien que je peux vérifier parce que l'information que tu me donnes, elle est beaucoup trop floue et imprécise. Et c'est un peu ce que disait le département de la Défense, les fameux 701 cas demeurés non identifiés. Il faut bien préciser, certains de ces cas-là étaient bien documentés, même si on n'a pas trouvé d'explication, mais généralement, ça coïncidait aux affaires les plus mal documentées. Et bref, rien ne permettait, à la fin de ce fameux projet Blue Book, rien ne permettait de conclure en des visites extraterrestres. L'affaire est restée un peu en dilettante de cette manière-là pendant pratiquement 50 ans. Et puis voilà que 2017, cet article dans le New York Times nous dit, ben voilà, même si l'armée dit ne plus s'intéresser aux ovnis depuis Blue Book, on sait qu'il y a eu des petits projets marginaux qui ont été menés pour enquêter sur des phénomènes étranges, dont les ovnis. Et donc, à partir de là, l'intérêt a été renoué. Et on a vu cette mise en place à partir de 2020 de ce projet, le projet ARO. Donc, tout ça pour résumer un peu où on en est. Donc, pour ce fameux budget 2024 du département de la Défense, on parle de 842 milliards de dollars. On a effectivement un petit budget qui va être consacré pour maintenir en place ce fameux programme d'investigation sur le phénomène des ovnis. Programme qu'il faut bien le dire, hein, le fameux programme ARO qui a été mis en place depuis 2020, ont tenu quand même à ce jour 3 conférences de presse au cours de ces derniers mois et des 2 dernières années, ils ont tenu 3 conférences de presse, dont une en parallèle avec la NASA, qui a tenu également à joindre un peu les efforts pour essayer de déterminer la nature de ces objets et de toutes de ces 4 communications publiques. Les 4 reprenaient à peu près ce qu'avait déjà dit le projet Blue Book en 1970, à savoir, oui, il y a des cas pour lesquels on n'a pas d'explication, mais rien ne permet de croire que ces cas-là témoignent d'une visite extraterrestre. Évidemment, ça déplaît aux amateurs d'OVNI. Et toi et moi, on en a souvent parlé, puis moi-même, je me dis, ben là, combien de fois faudra-t-il le dire? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu... Tu sais, Albert Einstein disait la stupidité, c'est de toujours refaire la même chose en espérant des résultats différents.
Oui.
Voilà, on enquête sur des témoignages, puis les témoignages nous disent toujours la même chose. C'est, on n'a pas d'explication, mais c'est pas des extraterrestres. Ben là, il faudrait peut-être se dire qu'il faudrait arrêter d'enquêter sur des témoignages. Et, petit conseil, il faudrait peut-être enquêter sur des preuves. Arrêter de enquêter sur les témoignages et enquêter sur les preuves. Mais bon, je donne mon opinion seulement. Et c'est là où on en est. Ce programme-là, donc pour 2024, il est reporté, hein, il est ramené sur le budget. Oui, on va continuer d'enquêter sur les ovnis. Mais là, il y a une différence. Et là, déjà, ça commence à ruer dans les brancards. C'est que à partir du moment où le projet a été adopté en 2020, il y a des membres du Congrès qui étaient un peu zélés, faut le dire. Hein. Puis quand les gens, on oublie que les gens qui sont au Congrès, ce sont des élus. Puis dans ces élus-là, il y a des gens comme vous, comme moi, certains qui sont passionnés, d'autres non. Tu sais, tu comprends, il y a des obédiences religieuses, il y a des fanatiques religieux là-dedans. Il y a toutes sortes de gens.
Il y a des tranches politiques assez
Oui, c'est ça, ce sont des tranches politiques. Puis si tu vas, par exemple, il y a certains représentants qui sont très religieux. On le voit, hein, les débats que ça mène, pour des raisons religieuses, on veut pas autoriser l'avortement. Puis tout ça, ce sont des débats sociaux importants. Et souvent, ce sont des débats sociaux qui sont portés par des convictions des individus en fonction de leur obédience religieuse, le valeur sociale, etc. Donc, lorsque le projet a été mis en place, ce fameux projet d'enquête sur les ovnis en 2020, ça n'a pas fait beaucoup de bruit et il a été porté, hein, à bout de bras par des gens qui étaient fondamentalement convaincus de l'existence des ovnis, voire même des visites extraterrestres. Hein. Même si en public, ils se gardaient bien de dire « on croit aux extraterrestres », il fallait simplement voir les échanges qu'ils avaient entre eux pour voir que ces gens-là étaient plutôt convaincus, un, qu'on était visité par des extraterrestres, et deux, qu'il y avait au sein du gouvernement une espèce de complot qui existait depuis des décennies pour cacher l'information. Et là, donc, on exigeait une espèce de transparence. Et à partir du moment où ces balises-là ont été mises en place, le département de la Défense, comme son budget est dépendant du Congrès, ben le département de la Défense s'est enligné sur ces demandes-là. Mais là, on se rend compte au cours des derniers mois que cette volonté de transparence, ce qu'elle entraîne et ce qu'elle a entraîné, c'est la révélation d'informations sur des mécanismes de collecte d'informations. Et je m'explique. C'est bien beau qu'on veut savoir comment fonctionne ou si on a observé des ovnis dans une base X ou Y, ou si des pilotes sur des chasseurs ont vu des ovnis et s'ils les ont filmés avec des mécanismes de détection X ou Y. Mais si je dois rendre publique cette information-là, je donne à mes adversaires militaires de l'information. Hein, je leur dis, par exemple, que ma base militaire X ou Y est équipée de tel ou tel type de détecteur, et je vais même, à la demande du Congrès, je me dois de dire comment ces détecteurs-là fonctionnent. Ben là, écoute, s'il y a une oreille terroriste à l'écoute, elle se dit, ben voilà comment les systèmes de détection fonctionnent.
Puis on est frileux depuis 2001, là, on s'entend.
Tout à fait d'accord avec toi. Et là, cette fois, à cause de l'engouement que cette question-là des ovnis suscite, ben là, au moment où on a voté ce nouveau budget en décembre dernier, il y a des gens, des représentants du Congrès qui ont dit, wow, on veut bien qu'on... Et parce qu'il y a des gens là-dedans qui considère que c'est une dépense tout à fait frivole, cette histoire d'OVNI, en disant l'affaire, on s'y est penché il y a des années, des décennies, on a démontré que les témoignages ne s'avalaient pas de la chenoute, puis que les gens confondaient la planète Vénus avec des soucoupes volantes. Donc l'affaire est réglée. Mais là, de voir qu'on investit à nouveau de l'argent là-dessus, on n'est pas contre la vertu, mais cette vertu-là ne va pas jusqu'au point de révéler des secrets défense à nos ennemis militaires. Et là, donc, des gens ont mis leurs pieds, ont mis le pied sur le frein en disant, attention, on veut bien que le département de la Défense continue de faire joujou avec les ovnis puis d'enquêter là-dessus, ça peut répondre à des questionnements publics puis ça peut répondre à des questionnements des membres du Congrès, soit. Mais on a ajouté un nouvel élément en disant, dorénavant, à partir de 2024, le département de la Défense, via son programme ARO, pourra rendre public ce qu'il désire rendre public sur la question des ovnis.
OK.
Et là, ben évidemment, tu comprends que la branche la plus fanatique crie au scandale en disant ben c'est le retour du complot, c'est le retour de la conspiration parce que encore une fois le gouvernement va nous cacher de l'information sur les ovnis, etc. Donc on n'en sortira pas. Mais la grosse nouvelle hein, pour ce qui est de ce budget 2024, c'est cette autorisation qu'on a donnée au département de la Défense de pouvoir faire un tri sur l'information sans qu'elle ait à rendre de compte au Congrès, de choisir elle-même ce qu'elle a envie de partager avec le public sur cette question des ovnis et de choisir des informations qui ne soient pas forcément des informations névralgiques. Mais évidemment, on le comprend, si tu es dans la catégorie des gens qui croient qu'il y a un complot ourdi depuis des décennies pour cacher l'information sur les ovnis, ben tu viens de donner soudainement plus de pouvoir à ces complotistes pour alimenter leur fantasme en disant, ben voilà, le gouvernement maintenant publie ce qu'il veut.
Donc, que ce sera jamais assez pour eux non plus en date actuelle.
Hein? Tout à fait raison. À un moment donné, puis on va revenir avec ça parce qu'il y a la lettre de Sean Kirkpatrick que je trouve très intéressante. Mais il faut savoir que moi, je suis un peu de cette idée-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puis là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent puis ils ont le droit à leur opinion. On dit, faites votre opinion. Ben, évidemment, j'ai la mienne. Et la mienne est la suivante. C'est que je pense que à un moment donné, on est toujours à refaire la même chose. Comme je l'ai dit, là, les ovnis, je pense qu'on enquêtait suffisamment sur des témoignages. Parce qu'il faut savoir, hein, il faut préciser quand même, Camille, que si le département de la Défense américain a dit en 1970, on a 701 observations d'ovnis pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication, mais rien là-dedans ne permet de croire qu'on est visité par des extraterrestres. Il faut savoir que c'est la même opinion qui a été partagée ailleurs dans le monde. Là, c'est pas qu'une affaire des États-Unis. Là. Les Français, par exemple, depuis la fin des années 70, ont mis en place un organisme pour enquêter sur les ovnis. Cet organisme s'appelle le GEPAN. Aujourd'hui, il s'appelle le GEIPAN, le G-E-I-P-A-N. Okay. À l'origine, il s'appelait le GEPAN, G-E-P-A-N, parce que à l'origine, c'était le groupe d'enquête sur des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il n'avait pas un mandat d'informer le public. C'est un organisme étatique qui avait été créé au sein de la NASA française, si je puis dire, le CNES, le Centre national des études spatiales. Donc, créé à la fin des années 70. Et aujourd'hui, hein, cet organisme-là étatique, il existe toujours. Les gens qui nous écoutent peuvent aller consulter le site Internet du GEIPAN. Maintenant, c'est G-E-I-P-A-N. On a rajouté, maintenant, c'est le groupe d'enquête et d'information. Le I, c'est pour information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, il s'est donné un mandat d'informer. Et on peut donc aller consulter leur site Internet. Et durant ces 40 années d'enquête, hein, depuis la fin des années 70. Donc, depuis les 40, maintenant presque 50 ans d'investigation, ils ont étudié plus de 10 000 cas d'observation d'OVNI, 10 000 signalements d'OVNI, et ils ont exactement dans les mêmes proportions les conclusions que le projet Blue Book avait donné en 1970, c'est-à-dire que on a à peu près de 3 à 5 % des observations d'OVNI, ce qui correspond aux 701 cas non identifiés des 12 618 du projet Blue Book. Là. C'est à peu près entre 3 et 5 %. Donc, le GEIPAN dit, on a, nous aussi, de 3 à 5 % d'observations pour lesquelles on n'a pas d'explication. Ces observations coïncident généralement avec les histoires les plus mal documentées ou par des témoins, mais qui sont un peu illuminés, qui racontent toutes sortes de choses un peu étranges. Et rien ne permet de croire que dans ces cas-là, même dans nos cas non identifiés, ce 3 à 5% de non identifiés, rien ne nous permet de croire qu'on est visité par des extraterrestres. On n'a pas cette preuve-là. Il n'y a rien qui va dans ce sens-là. Et là, bon, mais ça, le gouvernement français dit ça. Il faut savoir que le gouvernement britannique aussi ont tenu des projets d'enquête sur les ovnis. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un bureau qui avait été créé par Churchill, hein, qui on appelait d'ailleurs le Flying Saucer Bureau ou Desk. C'était le nom qu'on lui avait donné. Et après ça, ils ont eu plusieurs projets. Le plus récent remonte aux années 90, un projet qui s'était appelé le projet Condyne. Et leur conclusion, c'est, je te le donne en mille, on a des cas pour lesquels on n'a pas d'explication. Ce sont généralement les cas les plus mal documentés. Et rien ne permet de croire qu'on est visité par des extraterrestres. Et l'Australie a fait exactement la même chose. T'sais, fait que là, à un moment donné, tu dis, bon... Les Français disent ça, les Britanniques disent ça, les Américains disent ça, l'Australie dit ça. Là, à un moment donné, il faut quand même se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Là. Peut-être que cette fameuse investigation, comme tu dis, ça ne suffira jamais à personne. Mais on peut se poser la question, quand ces gens-là exigent une enquête objective sur les ovnis, on peut se poser la question, peut-être que cette enquête-là, on l'a déjà eue, peut-être qu'elle s'est déjà eue, elle a déjà eu lieu. Mais on ne veut pas accepter ses conclusions. Donc, c'est une fuite en avant. La seule investigation qui pourrait plaire aux amateurs d'OVNI, c'est l'investigation qui irait dans le sens de leurs croyances.
Ah ben.
Ça n'arrivera peut-être jamais, cela. Mais bref, et je sais, bon, pour parler de ce fameux budget, ben c'est exactement, déjà on est en train de crier au scandale, puis là on est déjà en train de parler de complotisme, bon, le gouvernement, encore une fois, qui va nous cacher l'information sur les ovnis, c'est les méchants militaires américains, mais il faut quand même avoir une vision un peu plus large, là. Tu sais, c'est pas rien que le phénomène des ovnis n'est pas qu'un phénomène américain, si le phénomène ovni, il est d'origine extraterrestre, on peut supposer qu'il serait un phénomène international. Hein? Les extraterrestres partent pas de leur planète en disant on va aller aux États-Unis. J'imagine que ils seraient un peu partout. Puis les Américains, ben, ils peuvent contrôler l'information qui se passe chez eux. Ils peuvent pas contrôler l'information qui se passe ailleurs. Les Américains pourraient toujours te cacher l'information qu'une soucoupe volante s'est posée sur la pelouse du Pentagone.
C'est vrai que c'est une bonne question. T'sais, pourquoi la zone 51 plus qu'une autre, mettons?
Voilà. Tu dis, bon, OK, ils peuvent toujours te cacher de l'information qui se passe aux États-Unis, mais les Américains n'ont pas le pouvoir de te cacher que des ovnis ont été vus en France, ont été vus en Angleterre, ont été vus en Australie, en Espagne, qu'une soucoupe volante s'est écrasée quelque part en Espagne ou au Mozambique ou ailleurs dans le monde. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. C'est un peu frivole de croire ça. Puis de croire que tous les pays du monde, au moment où on se parle, il y a 195 pays dans le monde, c'est ridicule de croire que depuis 60 ans ou 70 ans, toutes ces nations-là ont adopté la position américaine. C'est ce qu'on voit, les Américains, c'est quoi? On les a tous réunis dans un grand auditorium. Les Américains sont arrivés puis ont dit, nous, on cache la vérité sur les ovnis. Là, tous les pays du monde, incluant la Chine, la Russie, l'Iran, l'Irak, tous ces pays-là ont tous dit, hey, vous autres, les Américains, on vous aime puis on va faire exactement comme vous autres. c'est un peu invraisemblable. T'sais. Fait que bon, bref, on pourrait toujours débattre de ça, de tout ce questionnement-là, mais bref, on peut se poser la question, est-ce que finalement cette histoire d'OVNI, est-ce que c'est pas un problème qui est un peu circulaire? Et moi, je pense que oui, si tu me demandes le fond de ma pensée. C'est triste à dire, mais je pense que depuis... Puis je l'ai vu venir, hein, je te cacherai pas, là, je l'ai vu venir à la fin des années 90, là, quand j'étais dans ce milieu-là, les milieux ufologiques, j'ai vu cette mouvance-là. Le phénomène OVNI est devenu un phénomène religieux. Mmh. Hein? Les gens, là, évidemment, on va pas à l'église, on va pas prier les extraterrestres, mais c'est devenu la même chose.
À quoi, hein,
les
tu gens... crois maintenant? Est-ce que tu y crois?
Voilà, c'est ça. C'est les gens croient aux ovnis et c'est devenu comme une espèce d'aveu de religion. J'y crois et je refuse toute information qui va pas dans ce sens-là. Puis si tu y crois pas, ben t'es contre ma religion. C'est devenu un phénomène dont les mécanismes sont exactement les mêmes que les mécanismes qu'on retrouve dans les mouvements religieux. Et malheureusement, ben ça ne fait que de l'extrémisme dans les discussions. C'est à peu près toujours que des discussions un peu extrémistes. Aujourd'hui, moi je pense, mon opinion, et je pense qu'on l'a eu la réponse. Comme n'importe qui, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça dans les années 70, je voulais savoir, je me disais, c'est-tu vrai, est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Puis j'ai lu le projet Blue Book, puis j'ai lu le projet Condyne des Britanniques, puis j'ai regardé les rapports qui avaient été faits par le GEPA en France, puis j'ai lu les rapports d'Australie, puis ces enquêtes-là, à mon avis, là, je pense que ces enquêtes-là ont été très, très bien menées. Elles ont été faites avec une grande impartialité. Puis la conclusion, c'est nous ne sommes pas visités par des extraterrestres. Point à la ligne, passons à autre chose. Ça, c'est ce que je crois maintenant aujourd'hui. Et ma croyance, elle est basée sur des études qui ont été menées, qui sont rigoureuses. Parce que c'est ça, là, il faut savoir, le débat... Les gens diront, oui, mais Christian, là, c'est que ce n'est qu'une opinion. Non. Entre Christian Page qui dit, on n'est probablement pas visité par des extraterrestres, cette opinion-là, elle est appuyée par des milliers de pages de documents et d'études qui ont été menées. Alors que ceux qui disent, on est visité par des extraterrestres, n'ont rien d'autre à sur quoi s'appuyer que des témoignages. Tu comprends? Et ça, c'est très important. C'est un peu le même débat. Un peu pourquoi je refuse d'aller dans des émissions de télé pour discuter souvent de ces sujets-là. C'est parce que les gens vont dire, ben là, Christian Page apporte pareil. Quand Christian Page dit, ben voilà, il n'y a pas eu, je te donne un autre exemple de complot. Si moi je dis, il n'y a pas eu de complot dans l'assassinat du président Kennedy, et que tu mets à l'autre bout de la table quelqu'un qui dit, il y a eu un complot dans l'assassinat de Kennedy, les gens qui nous regardent à la maison se disent, ben voilà, deux personnes qui ont simplement pas la même opinion. C'est... Non, c'est pas pareil. C'est... Mon opinion, à moi, elle est appuyée par 5 millions de documents. 5 millions de documents sur l'affaire Kennedy, et aucun de ces documents-là ne va dans le sens d'un complot. Et l'autre, ben lui a son opinion personnelle sur des choses sur lesquelles il connaît pas. C'est pas un expert en balistique, mais lui, il a jugé que la balle devait arriver d'en avant, qu'il devait avoir un gars derrière un petit muret, il devait avoir quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est des fantasmes. Mais mon opinion, moi, elle est basée sur des millions de pages qui ont été produites en preuve, à la fois par la commission Warren dans les années 60, par la commission sur les assassinats dans les années 70, par d'autres commissions qui ont été menées après la sortie du film JFK, où on a revu les documents, on les a rassemblés aux archives nationales. Et là, aujourd'hui, on parle de 5 millions de documents. Tous les documents, à peu près, qui concernaient l'assassinat du président Kennedy, sont accessibles au public. Ils ont été déclassifiés et les gens qui sont vraiment intéressés par cette question-là peuvent se rendre à Washington, aux archives nationales, et les consulter. Tous les films, toutes les photos, tous les documents. Alors que si tu me dis non, c'est un complot, ben moi, ma simple question, c'est il est où ton document du complot? Oh, mais on nous le cache. Mais nous cacher quelque chose, ça, c'est pas une explication à rien.
Non, c'est la ligne à sa main ici, hein. Tout le monde a droit à sa propre opinion, mais pas à ses propres faits. Faut faire attention
à ça. Voilà, c'est ça. C'est bon. Fait que, bref, c'est ça. Donc, pour 2024, on peut le dire, il y aura à nouveau, de l'investigation qui seront menées sur les observations d'OVNI. Le programme Arrow est maintenu. Mais encore une fois, pour les mois et les années à venir, si le projet perdure encore pendant des années, maintenant, le département de la Défense jouit d'une plus grande liberté en fonction de ce qu'elle veut ou non rendre public, et ça pour en fonction de préoccupations d'ordre du domaine de la sécurité-défense.
Pendant que j'y pense, je sais que c'est pas dans ton line-up, mais ça a circulé au début du mois de janvier que la mission Artemis 3 allait être reportée pour l'émission lunaire.
Ouais. Ça, c'est un peu triste, hein. Et là, encore une fois, c'est amusant parce que, tu sais, on se replonge un peu dans la théorie du complot, hein. Les gens, dès que ça a été annoncé, t'as tout à fait raison, hein. On n'en sort jamais. Dès que la NASA annonce le report des missions Artemis, les gens disent, ben voilà, c'est quand même curieux. On est allé sur la Lune dans des boîtes de conserve dans les années 60. Puis là, avec toute la technologie qu'on a, pourquoi est-il si difficile? Alors là, ben, probablement qu'on n'a jamais été sur la Lune. Ça explique pourquoi c'est si difficile. Alors que ça n'a rien à voir. À l'époque, la NASA contrôlait tous les éléments. Hein. La fusée qui envoyait les hommes sur la Lune était une fusée de la NASA. Le vaisseau, c'était un vaisseau de la NASA. Les hommes étaient des hommes de la NASA. Tout était de la NASA. C'est elle qui contrôlait chaque élément du puzzle. Aujourd'hui, la NASA ne peut plus faire ça. Les coûts sont trop élevés, donc elle doit faire appel à l'industrie privée. Et donc, elle fait appel à des joueurs, par exemple, comme SpaceX. Mm-hmm. Et justement, SpaceX est un des joueurs qui fait que la mission est retardée parce que le vaisseau, le lanceur... Et là, encore une fois, il faut avoir une autre vision. Hein. Oubliez les missions Apollo. Les missions Apollo, il y avait d'abord une volonté politique à y aller. Hein. On avait un bras de fer avec les Soviétiques, donc il fallait arriver avant les Russes. Et l'idée, c'était, on met des gars, puis on les ramène. C'était ça l'idée. On envoie des gars là, ils se posent, ils débarquent, ils ramassent des roches, puis ils reviennent. C'est tout. On ne veut plus faire ça. Si l'objectif de la NASA était encore d'envoyer des gens pour ramasser des roches puis les ramener, je peux t'assurer que demain matin, on pourrait le faire. Mais c'est pas ça qu'on veut faire. On ne veut pas refaire ça. Hein? Ce que l'on veut, c'est on veut mettre des infrastructures. La Lune n'est plus un endroit où on va aller ramasser des roches. La Lune, on veut qu'elle devienne un endroit qui va nous servir de tremplin pour aller vers Mars. C'est ça qu'on veut faire. Mm-hmm. Donc, il faut mettre des infrastructures. Et ces infrastructures-là, il n'y a jamais été question de ça durant le programme Apollo. On n'a jamais imaginé ça. Là, maintenant, ce que l'on veut faire, c'est très ambitieux, hein, le nouveau programme lunaire. On veut mettre en orbite autour de la Lune une espèce de station spatiale dans la qui sera un quartier d'habitation. Les vaisseaux partiront de la Terre, vont aller s'arrimer à ce vaisseau-là en orbite autour de la Lune. Il y aura des changements d'équipage qui vont se faire à l'intérieur de cette station orbitale lunaire. Et là, il y aura un vaisseau qui va faire des allers-retours de cette station-là à la Lune, un peu comme un ascenseur. On est loin des programmes Apollo. Là. On n'est plus du tout dans la même chose. Et c'est pourquoi le nouveau programme Artemis, c'est un programme qui est 100 fois plus complexe que l'était le programme Apollo. Et comme on fait appel à d'autres joueurs, parce que le coût d'une telle mission est tellement élevé qu'on doit faire appel à des joueurs de l'industrie privée, bien évidemment, ces joueurs-là ont également des délais de leur côté. Et la NASA doit composer avec l'ensemble de ces délais-là. Cette fois-là, il faut se mettre dans la tête que là, contrairement aux missions Apollo, on n'y va pas pour revenir, on y va pour rester.
Ouais, c'est spécial. Hein, c'est
un peu, et la différence, c'est un peu comme si toi, tu me dis, Christian, je vais aller au dépanneur au coin de chez moi, aller me chercher, par exemple, une bouteille d'eau gazeuse. Ben, tu prends ta voiture, tu y vas, puis tu reviens. Mais si tu me dis que tu veux déménager sur le coin de la rue, là, c'est pas la même chose. Tu vas avoir besoin d'un camion de déménagement, puis tu comprends-tu, t'installer sur le coin de la rue ou aller au coin de la rue, c'est pas pareil. Et c'est exactement de cette manière-là qu'on doit revoir un peu, lorsque l'on pense à ces missions Artemis, c'est un peu ce que l'on doit faire. Donc, effectivement, le prochain envoi qui était prévu pour l'Artemis 2, qui était prévu pour 2024, et Artemis 3, prévu pour 2025, Artemis 3 étant l'alunissage, et Artemis 2, la mise en orbite d'hommes et de femmes autour de la Lune, tout ça a été reporté d'une année. Donc, la mission Artemis 2 devrait se faire théoriquement s'il n'y a pas d'autres délais. On devrait voir des hommes et des femmes en orbite autour de la Lune en 2025 et l'atterrissage d'un vaisseau sur la Lune avec un équipage, ça devrait se faire en 2026.
Wow.
Mais il n'y a pas réellement d'éléments de complot là-dedans. C'est simplement qu'on est en présence. On essaie de travailler sur une mission qui est excessivement ambitieuse par rapport à ce que on essaie de la comparer au programme Apollo.
Ça met la table avec l'actualité qu'on a eue dans les dernières semaines pour les ovnis. Et je ne sais pas si tu veux prendre peut-être une petite pause, Christian, pour parler au retour de Sean Kirkpatrick.
Oh que oui. Ça, c'était pour moi la grosse nouvelle. Faut que je te parle de ça.
On s'est gardé croustillant pour la deuxième partie de l'émission.
OK, parfait, on fait une petite pause.
Parfait. Sautez dans la rentrée avec Sport Expert. Magasinez les grandes marques de vêtements, chaussures et accessoires ou profitez des aubaines de la rentrée allant jusqu'à 40 % Détails en magasin et sur sportexpert.ca.
Cet automne, ta carrière t'attend au Collège O'Sullivan. Découvre une foule de formations reconnues par le ministère, orientées sur les besoins du marché du travail, informatique, assurance et un nouveau DEC en administration. Évolue dans un environnement bilingue au cœur du centre-ville. Cours offerts en classe ou en ligne avec de belles opportunités de stage et accès aux prêts et bourses. Il n'est pas trop tard pour t'inscrire. Consulte le osullivan-quebec.qc.ca. Début des cours le 21 août. On a une place pour toi.
La plus grosse liquidation de l'été se poursuit chez Club Piscine Québec. D'incroyables rabais de fin de saison alors que l'été ne fait que commencer. Économisez jusqu'à 50 % sur le mobilier de jardin et même plus sur les démonstrateurs de plancher. Obtenez une piscine hors terre tout équipée à partir de seulement 2 999 $ plus 400 $ de rabais sur la thermopompe. Sans oublier des économies pouvant atteindre 2 900 $ sur le plus grand inventaire de spa à Québec. Livraison et installation immédiate, prêt pour vos vacances. Club Piscine Québec, Sainte-Foy et Lévis.
Depuis 1985, la Maison Albatros offre gratuitement des services aux gens en fin de vie tout en offrant du support aux proches éprouvés. Afin de poursuivre sa mission, la Maison compte sur le soutien de la Fondation Albatros qui doit recueillir chaque année des milliers de dollars, notamment avec son spectacle bénéfice. Contribuez à la cause en assistant au spectacle Les Voix s'élèvent le 4 septembre à l'Amphithéâtre Cogeco avec Marc Hervieux, Marie-Denise Pelletier, Christian Margendron, Manon Séguin et les 24 musiciens de l'Orchestre La Symphonia de Lanaudière. Billets disponibles à partir de 28 $ au Amphithéâtre Cogeco.
Appelle Calinette et tout redevient beau. Pour le nettoyage des tapis et des conduits. Pour tout nettoyer après l'incendie. Pour remettre à neuf après le dégât d'eau. Appelle Calinette et tout redevient beau. Que ce soit gros ou petit, y'a pas de soucis. Fini les ennuis, on a tous les outils. Rapidement fini, c'est garanti. Pour remettre à neuf, oui, c'est Calinette.
On fait rien que ça.
Voilà, le verre est donné. C'est parti du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Les 60 tours rouges au métal.
Richard et compagnie, division automobile, présente les 60 tours Rousseau Métal au Grand Prix de Trois-Rivières du 9 au 11 août prochain. Action au rendez-vous avec les Labbé, Dumoulin, Bergeron, Tagliani et le champion défendant Marc-Antoine Camiran. Du 9 au 11 août, c'est les 60 tours Rousseau Métal au Grand Prix de Trois-Rivières, présenté par Richard et compagnie avec la collaboration de Prolon Contrôle. Achat de billets, gp3r.com.
Capsule
Radio X
supporte ses partenaires.
Prêt à plonger dans le monde du codage? Deviens développeur grâce à Codebox et son programme de 4 à 8 mois à distance avec horaires flexibles. Mentionne Radio X lors de ton inscription et obtiens un retour de 2 000 $ à la fin de ta cohorte débutant le 19 août. Visite le academy.codebox.com. Pour l'achat d'un véhicule d'occasion en toute confiance, un seul endroit, Gestion Lacoteau, une entreprise familiale qui existe depuis plus de 30 ans. Vaste choix de véhicules et nous sommes ouverts le samedi. Passez les voir ou allez au gestionlacoteau.com. Pour sortir, se divertir, manger et trouver tout, vraiment tout, c'est au marché Jean-Talon-Charlebourg que ça se passe. Plus de 400 exposants sur place, beau temps, mauvais temps, pour vous servir. Le marché aux puces Jean-Talon-Charlebourg, la destination incontournable pour les vacances estivales, ouvert 7 jours. Tu trouves que la game manque d'action? T'aimerais améliorer ta moyenne au bâton? Avec Planet X, l'été va être hot, hot, hot. Notre équipe t'écoute, te conseille et t'équipe pour veiller tard. Chez Planet X, on fait place à la passion avec la qualité au meilleur prix. Ses succursales et sur monplanetx.com.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour dans les Radio X-Files, c'est fini l'histoire des reprises, des meilleurs moments de la dernière saison. On est de retour officiellement pour l'année 2024 et le clou du spectacle ce soir, Christian, et c'est de parler du volte-face de Sean Kirkpatrick carrément dans les derniers jours.
Oui.
En fait, la vérité est sortie au grand jour, on pourrait le dire nous-mêmes.
Oui, et ça m'a fait jubiler parce que, écoute, rappelle-toi, on en a discuté ensemble, c'était en novembre dernier, on disait que Sean Kirkpatrick avait annoncé qu'il quitterait, c'est lui qui a été chargé, hein, qui est ce personnage, c'est Sean Kirkpatrick, c'est un scientifique spécialisé notamment dans la physique balistique, il a travaillé longuement pour le département de la défense, il était notamment attaché lorsqu'on a créé cette fameuse sixième force, hein, la force spatiale, hein, on sait qu'aux États-Unis, là, il y a l'armée de terre, les Marines, la Navy, l'armée de l'air, les la garde côtière. Et il y avait cette force, cette sixième force qu'on avait créée, qui était la force spatiale. Et Sean Kirkpatrick était attaché à ce groupe. Et on l'a donc transféré de là et il a pris en charge ce programme d'enquête sur les ovnis, qui est le programme ARO, dont on a parlé depuis le début de l'émission. Et puis en novembre dernier, on apprend que Sean Kirkpatrick a donné sa démission. Donc après pratiquement 18 mois au sein de l'organisme, il dit voilà, je vais quitter. Et je me rappelle, il n'y avait pas de données de commentaires. Il dit je quitte. Et il avait dit j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire. J'avais dit que je mettrais en place le bureau. On placerait un site web. Et à partir du moment où cette infrastructure serait placée, ben mon travail est fait. Je quitte et je laisse à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ben là il a pris ses fonctions au sein de l'organisme. Parce que Sean Kirkpatrick a quitté, lui, au mois de décembre. Son contrat s'est terminé au mois de décembre. Et quand on en avait parlé, je t'avais dit, est-ce qu'on peut déterminer pourquoi Sean Kirkpatrick abandonne après 18 mois? Et je me rappelle ce que je t'avais dit. J'ai dit, moi, je pense, là, que Sean Kirkpatrick, là, il en a soupé des ponts, il en a plein son pompon des amateurs d'OVNI. Et pourquoi? Parce que lui, il l'a pas mentionné, mais à deux reprises, lorsque la NASA s'est exprimée sur la question des OVNI, hein, la NASA, faut le rappeler, c'est un organisme civil. Elle a fait deux présentations au cours des deux dernières années sur les OVNI. La première pour dire qu'elle allait mettre allait contribuer dans un effort ou avec le département de la défense pour résoudre cette question des OVNI. Et elle a tenu l'été dernier, une autre conférence de presse en disant, voici sur les cas qu'on a enquêté, voici ce qu'il faudrait faire pour obtenir de l'information de qualité, parce que la problématique avec la question des ovnis, c'est qu'on n'a pas de données qui sont valables. Il n'y a rien de fiable. Et à deux reprises, quand la NASA a tenu ce discours-là, elle a commencé, elle a pris de longues minutes avant chacune de ses présentations pour dire, hey, les alliés de la soucoupe volante, là, vos insultes, vos commentaires, vos idées de complot, gardez-les pour vous. C'est un peu ça qu'elle disait. Mm-hmm. Les gens ont été intimidés, des gens qui, dès qu'on a annoncé le nom des gens qui siégeraient sur ces comités, ces gens-là ont été intimidés, ils ont reçu des insultes, etc. Vous faites partie du complot, allez-vous nous dire la vérité, etc., etc. Puis ces gens-là, écoute, ils sont parachutés là-dessus, ils acceptent de faire un travail honnête et scientifique, et les voilà bombardés par toutes sortes d'individus, d'illuminés, de théoriciens du complot. Et moi, je me rappelle, j'ai dit, Sean Kirkpatrick ne l'a pas dit, mais à mon avis, quand ça fait, il y a une carrière de 40 ans dans le département de la défense, en physique, balistique et autres, quand t'as donné 40 ans de ta vie au département de la défense à faire des choses constructives, hein, et que tu es respecté, et tu te ramasses à enquêter ces ovnis et tu te fais insulter à tour de bras tous les jours par des espèces de soin-soin, tu te dis, gars, j'ai autre chose à faire.
J'en ai soupé.
J'ai comme autre chose à faire. Et là, maintenant qu'il est déchargé de son travail au sein de l'ARO, il a publié il y a quelques jours une longue lettre de 4 ou 5 pages dans lesquelles il explique pourquoi il a quitté le programme ARO. Et écoute, c'est du copie-coller de ce que je t'avais dit.
Wow!
Écoute, j'ai la lettre devant moi. Je vais t'en lire des passages. Je sais que c'est pas super sexy à lire des passages à la radio, mais écoute, il y a des éléments là-dedans là, qui nous amènent à réfléchir. Là. Donc, il commence sa lettre et dit « Voici ce que j'ai appris en tant que chasseur d'OVNI du gouvernement américain. Un prochain rapport d'enquête du bureau du Pentagone. Le prochain rapport d'enquête d'un bureau du Pentagone n'a trouvé aucune preuve de la présence d'extraterrestres, seulement des allégations diffusées à plusieurs reprises par les défenseurs des ovnis. Et ce rapport dont il parle, il a été publié aujourd'hui même. Donc aujourd'hui, le Pentagone a rendu public un nouveau rapport sur les ovnis qui est disponible. Là, je mettrai peut-être à la fin de l'émission le lien. Les gens peuvent se rendre sur le département de la défense et le télécharger. Le document a été mis en ligne aujourd'hui.
Okay.
Et là, Kirkpatrick qui continue. Il dit, Carl Sagan a popularisé la maxime selon laquelle des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Il dit, dans le monde actuel de désinformation, notre capacité de penser avec une critique rationnelle est fondée, notre capacité de penser critique rationnelle est fondée sur des preuves, c'est érodé. Et je le comprends. Il dit, en tant que directeur du Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines du ministère de la Défense, chargé d'apporter une clarté, une résolution fondée sur la science au mystère de longue date entourant les observations crédibles de phénomènes anormaux non identifiés, a également connu, et également connu en tant qu'OVNI, j'ai vécu cette érosion de près et personnellement. Et cela a été un facteur dans ma décision de démissionner de mon poste en décembre dernier. Après avoir minutieusement constitué une équipe de personnel hautement talentueux et motivés et travaillé avec eux pour développer une stratégie rationnelle, systématique et scientifique pour enquêter sur ces phénomènes, nos efforts ont finalement été submergés par des affirmations sensationnelles, mais non étayées, qui ignoraient les preuves contradictoires tout en capturant l'attention du public, des décideurs politiques et du public menant des batailles législatives et dominant un discours public. Bref, t'as beau essayer de travailler, le public, l'engouement, c'est plus fort que la démarche. T'sais. Donc là, à un moment donné, tu te bats contre des moulins. Il dit, le résultat de ce tourbillon de fables, de fabrications et de récits de seconde ou de troisième main a été une frénésie sur les réseaux sociaux et une quantité importante de temps et d'énergie du Congrès et de l'exécutif consacré à enquêter sur ces soi-disant affirmations comme si nous ne le faisions pas déjà. J'ai quelque chose de mieux à faire.
Wow, OK, c'est rage quit, là.
Ça le dit, hein. Il dit, premièrement, il n'existe aucune trace d'un président, parce que là, évidemment, il revient sur les affirmations dont on a beaucoup parlé l'an dernier de ce David Grush,
oui. Hein,
qui avait dit au Congrès américain, on tue du monde, j'ai été menacé, puis on a récupéré des soucoupes volantes, puis ils sont cachés dans un hangar, puis on les démonte, puis il y a des compagnies qui travaillent là-dessus, puis etc., etc. Donc, il parle de ça. Ça, c'est un peu l'affirmation sensationnelle qui, visiblement, lui est restée au travers de la gorge. Et là, il dit à propos de ça, il dit, premièrement, il n'existe aucune trace d'un président, d'un département de la Défense ou d'un dirigeant vivant de la communauté du renseignement ayant connaissance de ces prétendus programmes, ni aucun comité du Congrès ayant une telle connaissance. Cela devrait en dire long si cette affaire suivait une procédure classique, car il est inconcevable qu'un programme d'une telle envergure n'ait jamais été informé des 50 ou 100 personnes au sommet du gouvernement américain au cours des décennies d'existence. Et ça revient, tu te dis, t'es beau, tu sais, s'il y a 3 personnes dans un secret, tu pourras pas le garder.
Ouais,
et là,
tu essaies
de me faire à croire que depuis 50 ans, il y a des gens qui démontent des soucoupes volantes, qui travaillent sur des extraterrestres qu'on a récupérés, puis ça dans plusieurs pays, hein, parce que David Grush dit, on a commencé par en récupérer des soucoupes volantes en Italie. Et là, t'essaies de me faire à croire à moi que tous ces gens-là, au fil du temps, ont tous gardé le secret. Sans là, je te dirais, là, mon opinion, là, c'est pour moi, pour Christian Page, là, c'est plus facile de croire au Père Noël que croire à ça.
C'est sûr.
Ça, là, c'est d'une invraisemblance. Si tu crois ça, là, ben, il n'y a plus rien à faire. Si t'es prêt à avaler ce couleuvre-là, il n'y a plus rien à faire. Il dit, deuxièmement, ce récit couvre depuis des années est en grande partie une conséquence d'un ancien programme de défense d'intelligence. Là, je te lirai pas tout ça, mais ça, c'est très intéressant parce qu'il explique là-dedans que les fameux programmes qui ont été faits dans le passé, où on a donné de l'argent depuis le projet Blue Book, là, il dit notamment un programme qu'on a appelé le programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, un programme qui s'appelait ATIP. Ça, c'est une affaire de donnant-donnant. C'est un gars, un type qui s'appelait Harry Reid, qui est un élu au Congrès. Ce type-là était ami avec un type qui s'appelait Robert Bigelow, puis il a dit, gars, moi, ça m'intéresse, les ovnis, je vais m'arranger pour te donner de l'argent, mais on va créer un faux projet, puis il ne serait pas question d'ovnis là-dedans. T'sais? Fait qu'on on va y donner un nom. Au lieu d'appeler ça programme d'études ces ovnis, parce que le Congrès ne voudra pas, on va appeler ça progrès d'études sur les menaces aérospatiales avancées. Ça fait très sérieux. Puis avec ça, on va pouvoir aller chercher de l'argent puis te la donner pour que tu enquêtes ces ovnis. Excuse-moi le mot, là, c'est du népotisme ou de la crosse. C'est pas dur, là, c'est comme ça que ça s'appelle. Ayons pas peur des mots. Et il va même plus loin en disant qu'après la tenue de ça, quand on a découvert ça puis qu'on a coupé la source d'argent, ce fameux sénateur Harry Reid est allé voir le Congrès puis il a dit au Congrès, ben dans ce cas-là, il dit tous les documents là qu'on a, que le gouvernement a sur les ovnis secrets, je dis bien secrets, il faudrait les cacher, faire une banque pour les cacher. Et ça, la réponse du Congrès, ça a été de dire, ben c'est beau là, on veut bien, mais les documents dont tu parles là, il n'existe pas à part dans ton imagination. Et c'est là que le programme a pris fin. Ça, personne sait ça. Personne ose en parler. Il y a une crosse ici, là. Cette histoire-là est une crosse au sein du gouvernement, du népotisme, là. C'est du contrat de gré à gré entre deux chums. Mais personne n'en parle. Okay. On essaie de rendre ça très sérieux. Puis lui, la DIA, la Defense Intelligence Agency, a conclu que non seulement de tels documents n'existaient pas, mais que l'argent des contribuables était dépensé de manière inappropriée pour des recherches paranormales au Skinwalker Ranch dans l'Utah. Ça, personne n'ose dire ça. Hein? C'est comme, oh, faut pas dire ça, ben non. Bon, enfin, il poursuit en disant, Laro a enquêté de manière approfondie sur ses récits historiques remontant aux années 40, hein, quand il parle des écrasements d'OVNI. L'un de mes derniers actes avant de prendre ma retraite a été de signer le volume 1 du rapport sur les archives historiques de Laro, qui est actuellement en préparation. C'est le document dont je t'ai mentionné, qui a été publié aujourd'hui.
Oui.
Il dit... Et le rapport démontre que bon nombre des allégations en circulation décrites ci-dessus proviennent de divulgations par inadvertance et non autorisées de programmes américains légitimes, mais sans aucun lien avec les extraterrestres. Donc, on utilise cette information-là puis on monte autre chose. Et j'arrive peut-être à la phrase assassine, parce que la chose qui m'a le plus bouleversé, je vais revenir là-dessus. Bon, là, il dit, une partie du problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui réside dans le fait que le cycle médiatique moderne génère des histoires plus rapidement que les délais de recherche, de science et d'examen. Hein? On a une histoire, un gars dit, une soucoupe volante, puis il faudrait que demain matin, le Pentagone ou les experts se prononcent dessus. Puis comme ils peuvent pas faire ça, parce qu'il faut un temps pour mener une enquête, on veut du rapide. Mais comme on peut pas répondre le lendemain ou dans les 48 heures qui suivent, c'est que forcément, il y a une théorie du complot. Et la phrase la plus importante de sa lettre, il dit, « Certains membres du Congrès préfèrent donner leur avis à la presse sur les extraterrestres plutôt que d'obtenir des informations factuelles sur le sujet. Les membres ont la responsabilité de faire preuve de sens critique au lieu de rechercher l'attention. »
Le sensationnalisme.
Et ça, c'est ce qui m'avait bouleversé. Quand j'ai regardé la déclaration de David Grush l'été dernier, il dit, écoute, c'est irréaliste, là, tu dis, je peux pas croire ça, là. Le type est là, il est au Congrès, il y a des élus devant lui, des élus du Congrès, il dit, j'ai été menacé et le gouvernement a tué des gens pour cacher les informations sur les ovnis. Là, tu dis, moi, là, je suis au Congrès, là, ça n'a pas d'importance que je sois un républicain ou un démocrate, tu comprends-tu? Mon allégeance politique n'a pas d'importance. Toi, là, t'es assis devant moi au Congrès. Hein? La maison de la démocratie.
Ouais.
Et tu me dis à moi, un élu du Congrès, que le gouvernement, mon pays, a tué des gens, et tu connais les gens qui ont fait ça, tu sors pas d'ici, toi, là. On a convoqué dans la salle d'à côté, là, la tournée générale, on a contacté le FBI, puis tu donnes des noms. C'est la logique, là. Mais non. J'allais dire un gros mot. Des gens comme Tim Brochette ou Anna Luna sont là, puis se mettent, ah oui, c'est vrai. Ils nous cachent des affaires depuis Roswell, hein. Mais là, tu dis, écoute, tu vas me parler du bonhomme 7 heures puis de Blanche-Neige, là. Le gars, il est là. Il vient de dire que le gouvernement tue des gens au Congrès américain. Et toi, ta réponse, c'est, t'as bien raison. Ils nous cachent des affaires depuis Roswell. Tu dis, mais, C'est le monde à l'envers. C'est quoi ça, tu sais?
Penses-tu qu'il y a des regrets, M. Kirkpatrick, ou il est juste déçu de la tournure des événements?
Je pense que Kirkpatrick a sous-estimé la folie du milieu des ovnis. Ce milieu-là est devenu incontrôlable. Et là, plus loin, parce que bon, le temps file, on peut pas passer à travers ça.
Ouais, il nous reste comme 30 secondes, Christian.
À plusieurs moments dans sa lettre, ce qu'il explique, et ça, je suis tout à fait d'accord, c'est que ce milieu-là, là, il est contrôlé par une poignée d'individus, le lobby de la soucoupe volante. C'est toujours les mêmes. Jeremy Corbell, c'est Leslie Keene, c'est Luis Elizondo. C'est toute la même maudite clique. Là. T'as comme 10 personnes là, qui ont le contrôle sur les médias et on leur donne le micro. Hein. Dès qu'un type comme Jeremy Corbell dit « Hey, j'ai quelque chose à dire », les médias se prennent. Ah ouais. C'est toujours des affaires sensationnelles qui tiennent pas la route. C'est du grand n'importe quoi. Mais ce lobby-là crée une espèce, ces gens-là entretiennent une fausse idée et je pense que ça, on le sent là, dans ce que Kirkpatrick écrit, il a été dégoûté de voir que le Congrès, le public américain, est contrôlé par cette petite clique-là qui essaie de nous vendre n'importe quoi. Et dans les dernières secondes, puisqu'il ne reste que quelques secondes, oui, je terminerai avec la lettre de Kirkpatrick qui dit « L'équipe de Laro ira là où les données les mèneront sans faute et ne se laissera pas influencer par aucune tentative visant à influencer ses conclusions autrement. La science ne peut pas être laissée de côté dans la course folle visant à découvrir une grande conspiration. Carl Sagan n'en attendrait pas moins et le peuple américain non plus. »
On pourrait pas mieux dire.
T'sais, et je pense, moi, mais cette histoire-là, quand il dit, tu sais, des congressmen, qui, moi, je n'en revenais pas. Écoute, j'en, 6 mois plus tard, je suis toujours traumatisé par cet événement-là. Le type est au Congrès, il dit, on a tué du monde, on continue d'en tuer. Puis l'autre bonne femme en avant, il dit, ah, oui, c'est vrai, il nous cache mes affaires depuis Roswell. Hein? Toi, t'es l'élu du Congrès pour l'État de la Floride, puis ce que tu trouves à répondre à ça, c'est pas on va faire venir la tournée, puis on va faire venir le FBI. Non, c'est ah oui, nous quand j'ai les affaires depuis Roswell. Tu dis, mais là, c'est le monde à l'envers. Je peux pas croire ça.
On a laissé les auditeurs finir leur petit panier de pop-corn avec le drama des ovnis. C'est sûr, on ne fait que commencer l'année, on va en réentendre parler.